Sud Radio, il est 4h. Sud Radio. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je crois que nous avons, Lucien, nous avons une auditrice à propos des Restos du Cœur et de Colombes.
Oui, une auditrice qui a voulu réagir et qui a appelé le 0826 300 300 et on accueille Clara de Paris. Bonjour Clara.
Oui, bonjour Clara.
Bonjour André, mais merci pour votre émission. C'est un souffle de liberté, merci beaucoup. Donc merci. Je voulais juste vous dire à propos des Restos du Cœur, je ne sais pas si vous savez qu'ils ont refusé l'aide aux soignants suspendus. Ils ont, à l'époque où ils ne pouvaient plus travailler, les soignants qui avaient refusé la vaccination obligatoire, ou plutôt les injections obligatoires, ils ont été contactés par l'association Blouse Blanche. Sonia, la responsable, la directrice, les a contactés. Ils ont refusé l'aide aux soignants suspendus qui n'avaient plus, même certains n'avaient même pas droit au RSA.
Tout à fait.
Les Restos du Cœur ont refusé, ça vous sera confirmé par Sonia Blouse Blanche, l'association Blouse Blanche.
Mmh. C'est bien de le rappeler ça, Clara. Vous avez tout à fait raison.
Bien sûr que je le rappelle, parce que ça ne m'étonne pas. C'est devenu, je ne sais pas ce que c'est devenu cette association, mais Coluche doit se retourner dans sa tombe et j'ai infiniment de respect pour Coluche. Et ils ont refusé l'aide en disant ils n'ont qu'à se faire vacciner. Vous voyez où on en est dans ce pays? Et heureusement qu'il y avait une autre association qui s'appelle l'association Porteurs d'Espérance, qui elle a aidé les soignants sans condition et qui continue de les aider, parce que pour certains c'est pas réglé, ils sont en procès avec leur employeur, parce que les employeurs, les hôpitaux, tout ça, certains, même beaucoup, même savaient que c'était un vaccin dangereux, qui risquait les myocardites et tout ça. Et ils ont quand même... Le gouvernement, tout ça, on sait,
c'est une question dont on discute souvent, mais ce qui est tout à fait hallucinant dans ce que vous dites, c'est que les Restos du Cœur ont refusé, alors que cette personne, quel que soit leur choix, et ils ont le droit, évidemment, à leur choix, consentement libre et éclairé, ces personnes n'avaient effectivement pas le RSA, pas d'indemnité, pas de surveillance. Ils ont été virés sans un centime. Il faut le rappeler, ça.
Oui.
C'est clair.
Et ils n'ont même pas eu la proposition de loi, soi-disant, disait que les gens devaient être classés. Ils n'ont eu aucune proposition de reclassement. C'était des mensonges, c'est une vaste tromperie et grave, parce que des gens sont morts, des gens se sont suicidés, des gens sont morts à cause de ces vaccins. Je pense à
c'est
une amie...
Chose. Non, je voudrais pas entrer dans la polémique sur les vaccins, Clara.
Excusez-moi.
Mais vous avez raison de réagir comme ça sur cette histoire du traitement des restaurants du cœur, et on se demande si le cœur joue encore un rôle. J'espère que oui, je sais que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, mais il faut faire très attention. La manière dont Colombe a réagi, effectivement, cette femme qui est au RSA, qui est bénévole au Resto du Cœur, il a été viré parce qu'il était dans un meeting politique. Il y a quand même un petit problème. Merci Clara.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Le face-à-face d'André Berkov aujourd'hui avec Jean Lucas, ancien agent à la DST, pour son livre « Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles aux éditions Plomb ». Bonjour Jean-Lucas.
Alors Jean-Lucas, bonjour. C'est vrai qu'il y a énormément de livres qui sont parus sur, effectivement, des personnalités qui ont été dans les services spéciaux, que ce soit le contre-espionnage, que ce soit les affaires étrangères, la DGSE aussi, ou la DGSI. Mais vous, c'est vrai que ce livre tranche était... Je suis content de vous recevoir parce que ce livre qui est vraiment à lire, vous racontez des histoires, des faits qui sont arrivés. Vous avez été, je le rappelle, à la DST de 1972 à 1986, 14 ans. Vous avez été ensuite en Guadeloupe, vous rappelez, pendant 2 ans, et ensuite dans le privé depuis 94. Et maintenant, vous êtes retiré des affaires, on peut le dire.
Absolument.
Alors, quand vous dites « ça m'intéresse d'agent », on va parler de votre livre. Vous dites « rebelle ». en quoi, par rapport à l'architecture et rapport au système DST, vous vous considérez comme un rebelle?
Alors, le titre rebelle, c'est mon éditrice qui l'a trouvé, Madame Berlin, chez Plon, qui a lu le livre et a trouvé toute seule
le titre.
Le titre. D'accord. Je pense qu'elle faisait référence à l'attitude que j'ai eue lors de l'affaire Rulin. Rulin était un de mes amis. On montait contre lui une cabale qui pouvait lui risquer gros. Je l'ai protégé.
Alors, racontez un peu Dominique Rulin, parce que les gens... Justement.
Dominique Rulin était il était engagé dans les parachutistes pendant la guerre d'Algérie. À la suite des événements que tout le monde connaît, il est rentré dans l'OAS. Il a été ensuite arrêté. Il a fait de la prison. Il en est sorti. Il a fait quelques opérations de mercenariat. Et il était devenu un personnage, disons, un des principaux personnages de la sécurité privée dans les années 70.
D'accord.
À ce titre-là, il faisait...
Société privée. Enfin, société
Tout à fait. Et dans ce cadre-là, il faisait les campagnes électorales. À l'époque, les campagnes électorales étaient assez violentes. Il y avait les collages d'affiches et les couleurs de les équipes d'un parti politique se cognaient parfois.
Il l'a fait pour qui, lui?
Il le faisait pour les Républicains, pour Valéry Giscard d'Estaing.
Ah oui, Valéry Giscard d'Estaing.
Valéry Giscard d'Estaing, essentiellement. Oui, tout à fait. Bon, il a fait partie aussi du comité Tixier-Vignancourt à l'époque en 65, mais dans les années 70, il travaillait avec Hubert Bassot, qui est décédé maintenant, mais il avait un rôle moteur dans les protections des partis politiques à cette époque-là. Ce qui lui a valu d'attirer l'attention du nouveau personnel politique qui est arrivé, du Parti Socialiste.
Au moment de l'élection de Mitterrand, de François Mitterrand.
Et à partir de mai 81, le premier directeur des renseignements généraux avait carrément déclaré qu'il allait lui faire avoir des ennuis. C'est à ce moment-là que j'ai été prévenu et que j'ai dit à mon ami Dominique, fais attention parce que les choses vont tourner un peu au vinaigre pour toi. Voilà, et on a eu le déroulement de tout ça.
Et vous le racontez dans votre livre, dans divers chapitres d'ailleurs.
Tout à fait, oui, tout à fait, absolument.
C'est bien, c'est-à-dire que vous dites, non mais je crois que c'est quelque chose à souligner, vous mettez l'amitié avant les orientations politiques et autres.
Il y avait l'amitié d'une part, et une seconde chose que les gens n'ont peut-être pas perçue, quand le GIGN a été chargé de protéger le président de la République... Dans la police, on a trouvé ça pas normal, parce que les gens des VO, même s'il y avait de très bons éléments chez les VO, ils avaient plutôt les voyages officiels. Plutôt une réputation d'excellents tour opérateurs, mais pour la protection physique, c'était peut-être un peu léger. Donc que le GIGN arrive là-dedans et que le proto mette ses gars en place, tout le monde n'a pas trouvé ça anormal. Quand ensuite, ils ont été nommés pour la coordination du renseignement pour le terrorisme, là, ça a fait sourire beaucoup de gens, dans les milieux du renseignement.
Parce qu'ils n'étaient pas, c'était pas des spécialistes ni pas du des tout. Formés, ni voilà.
Ouais. Les gens du GIGN sont des athlètes de très haut niveau. Ils sont doués pour faire ce qu'ils font, mais pour faire du renseignement, ça demande d'autres qualités, d'autres formations. Et moi, quand je voyais arriver les dangers sur Dominique, je me suis dit, tu vas voir mon bonhomme, si c'est si facile que ça de faire du renseignement, je vais te montrer à la sauce DST ce que c'est. Et donc j'ai suivi l'affaire. Et trois fois ils ont voulu l'arrêter, trois fois j'ai réussi à les bloquer. Et puis ça s'est terminé comme ça.
Oui, c'est. Non, mais vous le racontez très bien dans votre livre. Et justement, alors, on va parler de la sauce DST. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire, ce renseignement, cet apprentissage de renseignement, vous l'avez fait avec Raymond Nart notamment, avec beaucoup d'autres. Au fond, parce que c'est vrai, c'est la guerre de l'ombre, enfin... Alors, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, parce que John le Carré, avec tout son temps-là, est venu, et puis beaucoup d'autres. Mais au fond, et parce que certains disent, oui, mais c'est une activité, en fait, où tout le monde, c'est l'auberge espagnole du fantasme, tout le monde va James Bond et compagnie, ou SAS ou autre. Non, c'est une activité... Est-ce que c'est d'abord une activité, je dirais pas de bureaucrate, mais enfin, une activité de bureau? Certains disent, oui, c'est plutôt ça, faut pas se raconter des histoires. Mais il y a quand même des actions, et vous le racontez, il y a quand même des traques, il y a quand même des enquêtes, il y a quand même des négociations, des interrogatoires.
Alors, la sauce DST, c'est d'abord la rigueur. La rigueur, le cloisonnement, ce qu'on appelle le besoin d'en connaître. On nous donne, pour faire nos enquêtes, ce qu'on a besoin de savoir et rien d'autre. Et il y a un cloisonnement très, très sérieux. Maintenant, est-ce que c'est bureaucrate ou pas? C'est bureaucrate d'une façon, parce qu'on écrit beaucoup à la DST. Mais surtout, on écrit quoi? Bon, on écrit ce que les gens nous ont dit. Parce qu'on va, c'est aussi un métier de contact, essentiellement un métier de contact. Le renseignement, faut l'avoir en allant voir les gens. À l'époque, nous, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas... On avait des écoutes téléphoniques, oui. Oui. Mais en gros, c'était seulement ça. Et les écoutes téléphoniques, les professionnels, évidemment, soit s'en méfient, soit vous intoxiquent. Donc, il faut faire très attention aux productions. Il faut les lire toujours au premier ou au second degré. Mais ouais, ça aide quand même à voir les relations qu'il y a entre les uns et les autres. Ensuite, il faut les prendre les contacts, voir les gens, et bah, leur tirer le maximum d'informations. Et ensuite, il faut les écrire. Et nous, quand on rendait nos rapports, c'était presque un examen. Moi, j'avais affaire à de vieux commissaires, des gars qui avaient monté la résistance et tout ça. Et c'était, vous écrivez ça, pourquoi? Vous l'avez su d'où? Qui vous l'a dit? Tout était sourcé. Tous nos renseignements à l'AST étaient sourcés.
Ben, c'est exactement ce que les bons journalistes et les bons rédacteurs en chef font. Effectivement, d'où vous l'avez su et comment vous sourcez. En tout cas, ceux qui font bien leur métier font ça. On va continuer à parler de la sauce DST parce que c'est très intéressant. Après cette petite pause, à tout de suite.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Cool.
An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, our Sergeant Mary, while it breaks the spell of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et un rebelle à l'AST avec nous, Jean-Lucas, 15 ans d'affaires sensibles, un livre qui vient de paraître aux éditions Plomb. Effectivement, vous racontez, alors on va continuer à parler, on avait commencé à parler de la sauce DST. Et parlons-en, effectivement, on prendra des exemples, bien sûr. Au fond, c'est un apprentissage. Quelle est la part d'intuition? Quelle est la part de psychologie? Et quelle est la part, effectivement, d'aléas et de hasard? Vous en parlez, mais on donnera des exemples également, Jean-Lucas.
La part d'aléas et de hasard, elle est dans la production des sources humaines qu'on peut recruter. Quand vous recrutez une source, il ne va pas vous donner toutes les semaines des renseignements formidables. On les voit régulièrement pour maintenir le contact, pour suivre la personne. Il va nous donner parfois des renseignements qu'on connaît déjà ou des trucs tout à fait banaux. Et puis de temps en temps, pouf, il va nous lâcher une information. Et là, c'est tout le service qui se met en marche parce que l'information, elle démarre, elle lance une enquête. Et là, on est plusieurs à monter dessus et le service est mobilisé. Donc c'est un métier qui est à la fois fait de routine et de choses extraordinaires. La routine parce que il se passe des fois des semaines où on fait nos enquêtes et puis il y a rien qui sort vraiment d'extraordinaire et puis d'un seul coup boum, on a un truc et on vit comme ça en se disant aujourd'hui que c'est ce qui va sortir. Moi j'ai passé ma vie à attendre des fois j'attendais pas longtemps hein, mais à attendre que l'information elle tombe.
C'est ça.
Sur une écoute, sur les sources.
Sur une rencontre.
Sur les liaisons étrangères. Parce que les liaisons étrangères, surtout la CIA, par exemple, il y avait ces problèmes des défecteurs qui quittaient l'Union soviétique et qui allaient se réfugier aux USA, plus aux USA parce qu'ils avaient des moyens énormes pour reprendre ses grandes mains. Et à ce moment-là, nous, on bénéficiait de toutes les informations qu'ils lâchaient concernant la France.
Alors, Jean-Lucas, j'aime beaucoup, beaucoup, vous dites, j'écoutais ainsi religieusement, vous parlez de l'époque, effectivement, des collègues qui étaient plus âgés que vous. Mm-hmm. Ils écoutaient religieusement l'aide énoncée pour ma gouverne, ce qu'il appelait la règle des 3 B, morte avec le 20e siècle. Quelle nostalgie. D'un voyou, tu peux accepter tout ce qui se boit, se bouffe et se baise. En revanche, n'accepte jamais une voiture ni une villa.
Exactement.
Ah, c'est formidable.
Ça, c'est quand je suis rentré les premiers mois de service, quand je suis rentré dans un commissariat parisien. Ouais. Je suis tombé avec des vieux inspecteurs de la préfecture de police, des gars qui avaient vu beaucoup de choses et qui m'avaient dit, dans la police, on peut fréquenter des voyous, c'est normal, on va dans les mêmes bars qu'eux. Hein. Bon, donc tu leur parleras. Voilà, tu peux accepter, si t'offres un verre, tu l'acceptes. Si t'offres à bouffer. Si te colle une fille, tu sais que c'est une pute, mais tu peux la sauter si tu veux. Mais surtout, rien d'autre qui ne te prête pas une voiture, qui ne te propose pas de vacances, surtout pas d'argent. Il y avait des règles bien installées.
Mais ces règles existent encore quand même, non? Sans qu'elles soient, ce n'est pas des règles orales, bien sûr.
Honnêtement, j'en sais rien.
J'en sais rien.
Je vais sur 77 ans maintenant. Je suis depuis longtemps quitté tout ça. Mais je pense que là-dedans, sauf l'aspect anecdotique, il y a quand même des règles de prudence qu'il faut toujours conserver.
Quoi. Alors, Jean-Lucas, justement, on va revenir à la sauce DST, mais en prenant par rapport à une affaire. Par exemple, les micros du canard.
Oui.
D'abord, et on va démonter la mécanique, parce que ce qui est passionnant, c'est la mécanique. Qui demande à ce que vous enquêtiez sur le canard. Comment ça se passe? C'est-à-dire, la hiérarchie, comment ça se passe? Qui décide? Attendez, le canard, il nous embête, il sort des trucs, qu'est-ce que c'est? On veut savoir d'où il sort tel truc. Qui décide? C'est le politique, au plus haut niveau, c'est comment?
C'est le ministre.
C'est le ministre.
Moi, je l'ai su plus tard. Au départ, on ne savait pas.
Oui.
Moi, j'étais dans la division qui s'occupait des affaires soviétiques. Et c'est pas la division des affaires soviétiques qui s'en est occupée. C'est la division qui travaillait sur l'extrême gauche. Et Marcelin, le ministre Marcelin, a été violemment irrité.
Oui,
de l'intérieur, irrité des fuites. À l'époque, le canard, c'était un concentré de Mediapart, de tout ce que, de tout ce qui
est
actuellement.
Le canard était 100 fois au-dessus de ce qu'il est même aujourd'hui. Je
voilà.
Le dis.
Voilà. Donc c'était le chiffon rouge devant le ministre.
Ouais.
Donc il a voulu savoir. Donc la solution, c'était de. Il y avait d'autres solutions qui auraient consisté à environner le personnel, à travailler dessus, tout ça. Ça aurait pris beaucoup plus de temps, avec peut-être pas de chance de succès ou pas, mais on ne sait jamais. Là, ils ont décidé de poser des micros.
Mais dites-moi juste un mot, mais c'est intéressant. On est dans l'illégalité la plus totale, là. Soyons sérieux.
Oui, mais bon. Ça, c'était pas un problème pour nous.
Non, bien sûr. Mais ils n'ont pas réfléchi à l'efficacité, que ça pouvait se savoir, etc., à l'époque.
Je ne faisais pas partie de l'équipe qui a été chargée de ça.
Ah oui, qui a été chargée de ça, oui, d'accord.
Et comme je dis dans le livre, il y avait une cellule qui avait été montée, qui faisait tout et n'importe quoi. Il y a là-dedans, dans l'opération technique, un manque de professionnalisme, à mon avis, à mon humble avis, mais ce n'était pas moi qui organisais la chose.
D'accord. Et après, ça a fait... Alors, justement, mais vous avez fait quand même, vous en racontez aussi ça dans votre livre. Bon, ça a fait un bruit énorme.
Ah, énorme. Ça a coûté son poste à Geekswell, qui était un des grands directeurs, un des grands sous-directeurs de la maison. Et ça a été une perte.
Et oui, mais quand même, le scandale a été énorme. Mais ensuite, vous vous êtes... Je ne dis pas vous, Jean-Lucas, mais il y a une petite vengeance, quand même, vis-à-vis du canard.
Oui, oui.
Racontez.
Eh bien, un jour, je rencontre un de mes informateurs qui me donne les livraisons qu'il avait à me donner. Et puis, avec un petit sourire ironique, il me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un que vous devez bien connaître dans votre service. » Il me parle d'un vieux journaliste du Canard Enchaîné. Il me dit « J'étais à l'entrée du Canard et il vient me rejoindre derrière moi en me disant « J'étais pas au bureau, j'étais en face, c'est là que je passe mes coups de fil pour éviter les écoutes. »
C'est ça.
C'était une boutique juste en face du Canard. Elle existe toujours, d'ailleurs.
Oui, elle existe toujours.
Et donc, il me donne ça. Et il était évident que travailler officiellement sur le Canard, je pense que j'aurais été bloqué. Mmh. Alors, j'ai pris un de mes vieux informateurs sur les services soviétiques qui m'a dit, entre autres, qu'il avait rencontré, qu'il devait passer un coup de fil à un diplomate soviétique qui lui demandait, je ne sais plus quoi, pour des d'appartement. Et donc, il m'a dit, appelez-moi à ce numéro-là, parce que je sais des amis, je passe la soirée chez eux. Et moi, j'ai mis le numéro de l'endroit en question. Donc, j'ai identifié le numéro, et ensuite, on a branché ça, avec l'accord d'une partie de ma hiérarchie, quand même. Et puis, pendant 6 mois, j'ai eu toutes les commandes de café... du torréfacteur en question.
Ah oui, vous êtes resté à l'écoute du journaliste du Canard.
Voilà. Ouais, et de temps en temps, j'avais une autre conversation où j'identifiais un des correspondants du monsieur en question.
Ouais,
et puis, mai 81 est arrivé, j'ai anticipé le fait que j'aurais pas les félicitations du jury en continuant cette affaire, donc on a arrêté, on a tout détruit.
Ah ouais. Donc ça s'est arrêté là.
Mais ça date de 40 ans maintenant.
Oui, non, bien sûr. Mais dites-moi, est-ce que ça a été justement, avant de parler du reste, est-ce que le changement de régime, parce qu'il faut bien dire, l'arrivée de Mitterrand, c'était plus la même majorité, c'est le moins qu'on puisse dire, etc. Donc à 81, vous avez quitté en 86, et quand arrivait Balladur à ce moment-là, effectivement, en 86-88, est-ce que ça a été un vrai changement presque structurel, les hommes, etc., ou pas tellement?
À la DST, non.
Non, il n'y a pas eu de...
Non. Vous savez, la police nationale, elle est un peu comme toute la population française. Elle est répartie une partie à gauche, une partie à droite et une partie qui ne vote pas. Et en gros, la répartition, elle est à peu près la même que les résultats des élections. Donc on avait chez nous autant de gars de gauche que de gars de droite et autant de gars qui étaient sur une prudente réserve et qui fichaient totalement. Non, la police, moi, dans ce que je connais, la DST, elle était absolument à l'image de la société française.
C'est ça.
Il n'y avait pas de... Mais on travaillait pour le pays, on travaillait des fois même plus pour le service que pour le pays.
Je comprends, on est attaché à ça.
Voilà, le nationalisme, il était plus... Du service. Que du ce qui se passait dans le pays, à la limite, bon, c'est ça et basta. Mais nous, on avait les intérêts de notre DST, on les avait à cœur. J'espère que les gens de la DGSI sont pareils avec leur service.
Bah écoutez, espérons-le aussi, oui, c'est bien. Enfin, il faut qu'ils pensent un peu à la France, je pense qu'ils pensent un peu.
Bien sûr qu'ils pensent à la France, de toute façon, le travail, il est fait pour le pays.
Bien sûr, bien sûr. On va continuer avec Jean-Lucas, encore une fois un rebelle à la DST, beaucoup de choses qu'il a à raconter, à dire. Après cette petite pause.
Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez pour participer à l'émission 0826-300-300. 0826-300-300. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Albi.
101.2.
Sud Radio.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi. Le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée. Toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Oh, oh, elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Sans parapluie. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort tout.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Un livre à lire comme un roman policier, mais c'est d'ailleurs un roman policier, sauf que ce n'est pas un roman. Un rebelle à la DST de Jean-Lucas. 15 ans d'affaires sensibles aux éditions Plomb. Justement, Jean-Lucas, par rapport à toutes ces... au déclenchement des affaires, etc., nous, du côté, je dirais, spectateur ou commentateur, effectivement, les micros du connard, je me rappelle, j'étais jeune journaliste à FR, je prouve, mais énorme. Et puis les Irlandais de Vincennes aussi. Enfin, parlez-nous de les Irlandais de Vincennes et par rapport à quelqu'un dont vous parlez, comme Dominique Hérulin, qui a occupé une place non négligeable dans ce livre, sinon dans votre vie. Bernard Jegat aussi, qui était un de vos informateurs. Et parlons-en. Alors, Bernard Jegat, vous, c'était quoi? Enfin, c'était qui? C'était quoi? Et à quoi il a participé?
Bernard Jegat, il était impliqué. Il avait des amis dans l'INLA. L'INLA, c'était une organisation concurrente de l'IRA. Et il avait 3-4 camarades.
Irlandais, donc,
qui étaient venus en France pour s'abriter des représailles des services britanniques. Ils étaient en France en attente, parce que la France, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mouvements terroristes occidentaux, et en France, il y avait des moyens de trouver des plans, des armes, des faux papiers, de l'argent, enfin, tout ça, c'était un endroit où ils pouvaient être en immersion en attendant de décider d'une action quelconque. Il était rentré au contact de ces gens-là, et quand il y a eu l'attentat au restaurant de Joe Goldenberg.
Oui,
il a, sur les portraits robots qui ont été mis, il a cru reconnaître, son grand malheur, il a cru reconnaître ses camarades. Alors, il a voulu rendre compte, il a été à l'Élysée, il a vu Régis Debray, qui, je le comprends très bien, s'est un peu méfié de lui, il l'a écarté. Il a été au Nouvel Observateur, voir le directeur du Nouvel Observateur.
Jean Daniel,
qui, lui, il avait une journaliste qui venait de boucler un reportage sur le GIGN, donc il avait les contacts. Elle a appelé le GIGN et le capitaine Barry est arrivé pour prendre toute l'affaire en main. D'accord, et donc, ensuite, il a donné... Alors, il ne faisait pas que les aider comme ça. Il gardait chez lui armes, explosifs et tout le petit matériel qu'il mettait de côté. Donc, Barry, il a pris ça. Et en fait, Barry, il a mis dans l'appartement de Vincennes, il a mis lui-même les affaires. Il y a des gens qui croient ça très malin. En fait, c'est l'erreur à ne pas connaître. Quand on fait une perquisition, on prend ce qu'on trouve, pas ce qu'on amène, évidemment.
Oui, non, mais c'est pire que ça. Il n'a pas fait ça comme par hasard. Il amène ça. Il a fait du zèle.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il a fait du zèle. Alors, après ça, gros mouvement dans la presse et partout. Mmh. Et puis, Jegat s'en étonne. Il tente à alerter. Et puis, les gens s'en foutent, quoi. Ou disent, on met de la poussière sous le tapis, on n'en parle pas. Donc, il arrive à la DST.
Il est venu de lui-même à la DST?
Oui.
De lui-même?
De lui-même.
D'accord.
Il vient de lui-même à la DST, et il est entendu, on fait ce fameux, les gens de la section irlandaise, mais il y en avait, la terroriste était un peu par thème, il y avait les Irlandais, les gens de la section irlandaise le prennent dans la pièce, et ils lui font cracher un PV de 20 ou 25 pages, où il explique tout le détail de son affaire, et puis ensuite, quoi en faire? Alors on me l'a donné à moi et à mon commissaire avec qui je travaillais, Jean Silleul, et on nous a dit, voilà, voyez ce que vous pouvez en faire et essayez de le calmer. Parce qu'en fait, il allait partout, des milieux journalistes, politiques, administratifs, tout, il allait contacter n'importe qui pour dire on m'a manipulé, je demande une réparation, patati, patata. Voilà. Donc du coup, on l'a récupéré. Sur le contrôle, ça n'a pas été très efficace parce qu'il continuait à voir les gens. À la limite, moi, c'était pas trop mon problème, mais je lui avais dit, tu fais ce que tu veux avec tous les politiques, les journalistes que tu fais, mais... Ce qu'on fait ensemble,
tu
n'en parles pas. Et je l'ai lancé sur deux pistes. La première, elle montait bien. C'était sur Marseille, donc on descendait en TGV. On le lâchait, il allait voir ses petits copains révolutionnaires.
Toujours sur les Irlandais, là?
Sur l'extrême gauche.
Sur l'extrême gauche,
la piste, c'était de remonter vers Action Directe. Action Directe, il y avait ces quatre gugus là qui étaient en cavale et personne ne savait où ils étaient. Et c'était... tout le monde était dessus, quoi.
Incroyable.
Donc, après moi, avec mon divisionaire, on allait se prendre sur le Vieux-Port, se manger une bouillabaisse.
Vous avez senti Bernard Jegat qui était capable d'aller, de cotiser en pour aller voir Action Directe. Il avait le talent ou il avait la capacité d'aller dans des...
C'était...
Action Directe que ne connaissait pas, c'était non. pas son, sa non. cam, si je peux me permettre, ou son ouais. domaine.
Mais c'était une taupe de premier ordre,
Jegat. C'est ça.
Une taupe de premier ordre. C'est ça que j'ai relevé chez lui.
Mais qu'est-ce qu'ils font alors, Jean-Lucas, qu'est-ce qui fait les qualités de la taupe? C'est quoi une
bah déjà, une accepter taupe, de travailler pour les services.
Déjà,
comment
c'est pas évident.
C'est pas évident. Ensuite, bah, avoir les contacts. Si c'est pour une taupe qui connaît rien, bon, bah, elle est bien gentille, la taupe, mais elle ne vous ramènera rien. Donc il faut que le gars soit OK pour travailler pour vous. Il faut qu'il ait d'excellents contacts, qu'il soit crédible dans son milieu, qu'on lui parle, qu'il éveille pas la méfiance, et puisqu'il s'y aille, et qu'il ait la patience. Parce que s'il y va en cherchant trop de renseignements, les révolutionnaires gauchistes, là, qui sont pas des enfants de cœur, mais pas des idiots non plus, vont se douter de là. D'autant plus qu'ils sont toujours sur leur garde pour éviter les pénétrations de la police et des services. Donc il faut ces qualités-là. Et lui, il les avait. Ouais. Lui, il les avait.
Et il a continué, alors, mais vous avez longtemps, enfin...
Ça a duré quelques mois, pas plus, parce qu'ensuite, la première piste, c'était sur Marseille, la deuxième, c'était dans un quotidien parisien, et il y avait...
Lequel ?
Libération. Et il y avait, mais il y a longtemps.
Hein. Ouais, ouais, non,
la personne est décédée maintenant, je l'ai su dans Libération, en lisant la notice nécrologique. Et, ou dans Le Monde, je sais plus. Mais il avait un gars très intéressant qui connaissait une foule de choses, un type qui était dans le milieu depuis sa naissance.
En fait, entre le journalisme et la taupe, il y a quelques points communs.
Donc, le type était un grand professionnel de la conspiration.
Ouais.
Et Jégard arrivait au contact et il commençait, ça se passait bien. Et on a fait à la DST, bon, je rendais compte, hein, parce que tous mes rapports avec Jégard, c'était nous, on avait un code de la manipulation, on faisait pas ça n'importe comment. Je le voyais, je rendais compte avec des rapports très circonstanciés, très précis. Parce qu'ensuite...
Vous racontez ça dans le TGV, ils vont raconter ça.
Oui, dans le TGV, je prenais des notes, ce qui était dur, parce que les premiers TGV, il y avait des vibrations, on n'arrivait pas à écrire. Non, maintenant, c'est mieux.
Et vous n'enregistriez pas ?
Non.
Non, jamais.
Non, parce que enregistrer quelqu'un quand il... Ouais, c'est pas... D'abord, enregistrer sans qu'il le sache, avec tout le boucan qu'il y a dans un wagon, c'est pas très bon, surtout avec les appareils qu'on avait à l'époque. Hein. Et puis non, ça... On prenait tout en... Même les informateurs, je les enregistrais jamais, moi. On prenait tout de mémoire, ou je prenais de temps en temps. Ah. Voilà. Et donc, mes rapports, ils ont été transmis à l'UCLAT. La piste a été transmise à l'UCLAT. Et à l'UCLAT, ils ont décidé d'interpeller le gars. Évidemment, 48 heures de garde à vue, il n'a rien lâché. Et c'était fini.
C'est fou, ça. Voilà. C'est... Non, mais c'est ce qui est absolument passionnant dans votre... Et dans votre livre, etc., c'est au fond... on en a parlé hors antenne, Jean-Lucas, c'est la psychologie et puis le moment. Quel moment, le timing, quand est-ce qu'il faut frapper, enfin intervenir ou pas intervenir, etc. Il y a ça. Sinon, on commet les bévues qu'on a pu connaître. Quoi.
Il faut de la patience.
Ouais.
Il faut beaucoup de patience. Et ben, après, c'est dans notre métier, dans le contre-espionnage, il y avait deux choses. Soit on arrivait à recruter, à ce moment-là, on mettait le gars de côté, on le traitait comme un formateur. Soit on n'y arrivait pas et on avait suffisamment de billes contre le type pour le faire une procédure. À ce moment-là, c'était la Cour de sûreté de l'État, 6 jours de garde à vue. Et ensuite, à l'issue de la garde à vue, à l'issue de la nature des procès-verbaux, on voyait si on pouvait l'envoyer à la Cour ou pas. Parce que la Cour de sûreté de l'État nous laissait une grande liberté de manœuvre. On avait des rapports, mes patrons, le divisionnaire avec qui je travaillais, Raymond Nart, on avait avec eux des rapports magnifiques. Je ne sais pas si en ce moment, les procs de n'importe quelle cour disent aux policiers qu'est-ce que vous suggérez dans cette affaire. Et c'était ce qui se passait chez nous.
Les procureurs laissaient une immense marge de manœuvre.
De manœuvre.
D'accord.
L'accord tacite était qu'on ne leur déférait que des affaires ficelées, alors totalement. On risque pas de se faire démonter les procédures par un avocat, parce que les avocats, quand on arrivait à la Cour de sûreté de l'État, c'était pas les débutants.
Mais oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que nous avons encore est-ce que nous avons des correspondants ou pas? Alors, on va continuer. Non, c'est parce que je vois des noms s'afficher, mais on n'est pas encore. Pas de problème, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je voudrais que vous me parliez de la Guadeloupe.
À la Guadeloupe. Je suis parti à la Guadeloupe, parce qu'après l'affaire de le rapport de l'UCLAT que j'avais transmis au ministre Madelin, qui m'a valu ma sortie de la DST, j'ai été un peu mis au placard, et ensuite on m'a rappelé, Yves Bonnet, l'ancien préfet de la DST, partait comme préfet en Guadeloupe parce que Jacques Chirac avait été là-bas, ça s'était pas très bien passé, il y avait eu des émeutes et tout ça, il en avait retiré un sentiment mitigé, et il avait demandé à Charles Pasqua et à Robert Pendreau d'envoyer là-bas comme préfet quelqu'un à poigne. Et Yves Bonnet avait tout à fait le profil de ce préfet très très ferme. D'accord. Et donc Yves Bonnet était parti, il avait dit je pars, d'accord, avec une équipe à moi pour arrêter les gars. Parce qu'on avait une dizaine d'indépendantistes, de gens de l'ARC, des terroristes, hein, qui avaient été mis en prison, à la prison de Basse-Terre, qui s'en étaient évadés et qui étaient en cavale depuis deux ans et demi, et personne ne les retrouvait. Donc on est parti, la petite équipe, pour ça.
Et vous racontez d'ailleurs ce qui s'est passé ensuite, c'est assez fou. Je crois que nous avons un auditeur.
Philippe de Caen est avec nous, il a composé le 0826-300-300. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour monsieur Jean-Luc. J'ai une question entre le donneur et le serviteur. Je m'explique. À votre époque, mais encore plus maintenant avec la DGSI, hein, avec la fusion et voilà ce qui s'est passé, pouvez-vous donner votre avis sur l'interprétation des gens à suivre. Je m'explique. Ça demande des connaissances en langue, à part le français et l'anglais, mais quand on a différents interlocuteurs à surveiller ou à analyser, ça demande des connaissances en arabe, en persan, voilà. Comment vous pouvez vous assurer que...
On ne raconte pas des histoires, c'est ça?
En tout cas, le rapport est juste et bon. Est-ce que vous êtes pas, est-ce que l'interlocuteur de la DGSI maintenant ne peut pas être manipulé non plus en interne?
Jean-Luc, à votre avis, c'est il parlait de la connaissance des langues, parce qu'il dit, bon, aujourd'hui, c'est effectivement, ça peut être l'arabe, ça peut être le tchétchène, ça peut être l'afghan ou autre, hein. Est-ce qu'ils ont, alors ce n'est plus ce qui se passait, mais est-ce que vous aviez aussi à l'époque et aujourd'hui, en tout cas encore plus, des problèmes d'interprètes qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, des gens qui connaissent suffisamment la langue pour bien retranscrire?
Alors, d'abord, dans le contre-espionnage, on avait plusieurs traducteurs, des gens qui faisaient partie de la division et qui nous traduisaient ou les interrogatoires, ou qui traduisaient les documents. Et ça se passait sans problème, avec une totale confiance. À la division antiterroriste, on avait aussi des gens qui parlaient arabe. Moi, j'ai fait plusieurs reprises des auditions avec le traducteur, ce qui était très, très facile, très pratique, parce qu'on pose la question, il le traduit, il a la réponse, il retraduit. Et moi, ça me laissait le temps d'écrire la première réponse, de réfléchir et de voir l'architecture de l'interrogatoire que j'allais lui monter. Dans un sens, j'aimais bien les auditions avec un traducteur, oui, parce que ça me donnait du recul pour réfléchir et tout ça. Donc c'était pas un problème. Alors maintenant, il y a énormément, avant les gens voyageaient moins. Donc on avait besoin de l'anglais, de l'arabe, du russe. Chez nous, c'était ça. Plus d'autres langues, évidemment.
Aujourd'hui,
il y a une foultitude de langues. En lisant des trucs comme ça sur la presse, bon, j'ai su qu'ils avaient des problèmes pour trouver des linguistes, mais c'est des problèmes qui se résolvent. Quant à savoir si le traducteur est bien fidèle à ce qu'il fait, ça m'est arrivé quand j'étais au STIP. Le traducteur sur des délégations. Alors, c'était plus du renseignement, c'était l'accueil de délégations arabes, par exemple. Et je sentais un petit malaise entre mes invités, des pays arabes, et ce qu'ils me racontaient. Donc, c'est simple, hein, j'ai fait venir quelqu'un qui parlait arabe couramment et qui me traduisait ensuite les propos du traducteur. Et quand j'ai su qu'il ne traduisait pas d'un autre, j'ai fait un rapport et on a viré le mec. On contrôle ça, après, on contrôle. Manipulation, vous avez toujours le fait que vous ne savez jamais si le DA vous dit 100% de la vérité ou...
C'est clair.
C'est le jeu, hein, c'est le jeu. C'est ça qui fait l'intérêt
de... ce qu'il veut, et après, il faut vérifier. Et voilà. Je crois que nous avons un autre Philippe.
Oui, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite et on retrouvera Philippe de Saône-et-Loire juste après la pub. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826-300-300 et on accueille tout de suite Philippe de Saône-et-Loire. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour André et félicitations pour l'extrême qualité de vos émissions. Vraiment, ça mérite une appellation contrôlée. Moi,
merci. Je vais me faire rembourser par la sécurité sociale. Dites-moi tout.
Je voudrais saluer votre invité et le tutoyer d'abord, non pas parce que je le connais, mais parce que on est de la même grande maison. Ah. Sauf que moi, j'étais dans la boutique d'à côté, surnommée les grandes oreilles. Vous voyez, les renseignements généraux. Voilà. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qu'il disait à propos des informateurs. Effectivement, un informateur, il ne faut jamais lui tourner le dos dans le sens où son intérêt n'est pas le même que le nôtre. Nous, ouais. Notre intérêt, c'est d'apporter quelque chose à l'enquête, à l'investigation. Et lui, il a un intérêt personnel, soit se faire écraser une affaire, soit de l'argent, soit tel avantage. Et donc, moi, je suis toujours parti. Moi, j'étais officier traitant. Hein, ouais. Et je suis toujours parti du point de vue que s'il en fumait en face, il était tout à fait capable de nous en fumer tout autant. Et donc, c'est un jeu du chat et de la souris. Et puis alors, à mon collègue, bah, écoute, je te salue, et je peux te dire qu'on a un point commun, c'est qu'on connaît les plombiers. Alors, ils ont été saqués. Ils ont été extrêmement saqués après 81. Et il y en a un, d'ailleurs, qui est mort d'un cancer. Et le deuxième, je ne vais pas dire son nom, mais je vais dire le prénom, Jean-Claude. Voilà, ça te dira quelque chose. Ben, je l'ai bien connu parce que c'est lui qui m'a formé ultérieurement aux écoutes. Et donc, c'était un charmant collègue, voilà.
Voilà, bah, écoutez.
Effectivement, après, au renseignement généraux.
Et les plombiers, voilà. Il y a des plombiers qui sont des gens charmants, absolument.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe.
Mais... je dirai ton bouquin, et puis tu m'enverras une dédicace. Salut.
Pas de problème.
Voilà, mais ils écoutez, vont te donner mon numéro. Ils te donneront mon numéro.
Absolument. Absolument, on donnera votre numéro au standard, absolument. Je crois que nous avons quelqu'un aussi, nous avons Guy ou pas encore peut-être.
Guy arrive, c'est Guy de Paris, Guy de Toulouse, Guy de Toulouse cette fois-ci. Bonjour Guy.
Bonjour Guy.
Oui, bonjour, je suis heureux d'entendre une personne de cet éminent service pour lequel j'ai beaucoup de respect. Alors je voudrais rappeler, j'ai plus de 70 ans, d'accord. Oui. À une certaine époque, j'étais à Bayonne et je militais pour la résistance au régime de Franco. Mmh. Et un jour, l'ami d'une tenancière, oui. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter.
Non, c'est pas la peine
de les dire. Les amis du quai de Verdun sont au champagne toute la nuit. Mmh. Vas-y tranquillement et
c'est quoi le quai de Verdun, excusez-moi, alors là il faut donner, c'est quoi le quai de Verdun, c'est quoi les amis du quai de Verdun?
C'était le siège, bon, notre auditeur connaît, c'était un des sièges de la DST.
D'accord. Alors okay. La DST est trinquée au champagne, et pourquoi pas, donc ah dans oui, un estaminet...
Elle était invitée, elle a passé toute la nuit au champagne.
D'accord, et alors?
Et cette brillante équipe, ouais. Très tranquille, avait laissé tout son véhicule ouvert, et à l'intérieur, tout un système d'écoute téléphonique, avec un carnet de bord, ils étaient passés par la tour de Munich, etc., c'est à l'époque des plombiers et de l'affaire du Giscard d'Estaing.
Les avions renifleurs, non?
Giscard d'Estaing, le Chaban enchaîné. D'accord,
ouais, d'accord.
Et
d'accord.
Cette équipe se rendait sur la côte basque pour approcher les services de, à l'époque, M. Chaban, quelque temps avant les élections présidentielles, voilà.
D'accord.
Pour savoir si votre invité a eu connaissance de cette aventure.
Jean-Luc,
absolument
non.
Pas.
Non, absolument pas.
Absolument pas.
Mais en tout cas, c'est intéressant.
Si vous me laissez mon téléphone, j'aurai du plaisir à échanger avec lui.
D'accord. On le fera. Jean-Luc, je voudrais revenir quand même justement à ce problème de rapport. Alors, là où vous étiez évidemment dans une équipe, vous aviez vos patrons, etc. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que à des moments, sans parler d'une affaire spécifique, si par exemple le chef de la DST ou l'un des chefs ou l'un des officiers traitants, ouais, etc., reçoit une consigne politique, et il estime que la manière dont on doit le traiter n'est pas la bonne, c'est-à-dire que, je ne parle pas du fond, mais que stratégiquement, que tactiquement, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il y a des discussions où, au fond, il faut exécuter ce que disent les politiques, de toutes les façons, c'est dans le métier, c'est l'ADN du métier, ou pas?
Alors, d'abord, moi, j'étais un fonctionnaire, ce qu'on appelle un fonctionnaire de terrain, et je n'avais pas accès aux discussions qui peuvent se passer entre le préfet de la DST et le ministre. Je dirais, pour répondre à votre question, que tout dépend des rapports que le préfet de la DST ou les hauts cadres de la DST entretenaient avec le ministre ou les hauts responsables du pays. Ça dépendait des hommes.
C'est ça.
À certains moments, compte tenu de la personnalité de certains de nos chefs, Je pense qu'il pouvait y avoir des cas où nos chefs disaient « là, vous faites une erreur, on va au casse-pipe, ou là, il vaut mieux faire comme ça que plutôt que comme ci ». Et je pense, dans d'autres cas, peut-être qu'ils obéissaient. Pour l'affaire du canard, ils ont dit oui. Une partie de la direction a dit « si ceux-là peuvent s'en occuper, s'ils veulent s'en occuper, qu'ils s'en occupent, nous, c'est pas notre affaire ». Et ils ont bien fait, la preuve. Mais non, ça dépendait des rapports et des personnalités des ministres et des dirigeants du service.
Et dans le cas des Irlandais de Vincennes, c'est la même chose? Vous pensez qu'il y a eu quelques écarts entre l'analyse de tel ou de tel, ou pas? Parce qu'il y a eu quand même cette histoire de déposer des armes, et qui a tourné en fiasco quand même terrible.
Oui, plutôt, oui.
Plutôt. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, évidemment vous ne le savez pas, mais il peut y avoir eu des discussions assez précises?
L'affaire des Irlandais, François Mitterrand, les socialistes en général se méfient un peu de la police.
Ouais, c'est ça qu'il faut le dire, oui.
Mais ils se méfient un peu de la police. Ça s'est calmé après.
Oui, oui, bien sûr.
Mais ils se méfient de la police, donc ils ont confié, et surtout, le service des voyages officiels, s'ils avaient bien organisé les missions précurseurs et tout
ne faisait pas...
Sur le plan de la protection réelle, c'était pas l'idéal.
Oui,
effectivement, je pense que François Mitterrand devait se sentir mieux en sécurité avec les athlètes du GIGN qu'avec les autres. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a sans doute un sentiment de confiance. Le président Mitterrand faisait confiance à Proto. Je me suis d'ailleurs toujours demandé comment un type aussi redoutablement intelligent et florentin, comme on disait, que Mitterrand pouvait avoir une confiance totale dans cet homme qui était un fidèle de chez fidèle, mais pour certaines parties, pas pour d'autres.
Pas pour d'autres.
Lui avoir confié un travail de renseignement sur l'antiterrorisme, alors qu'il y avait les RG, il y avait la PJ, il y avait la ST qui travaillait là-dessus, et c'était, il n'y avait pas de résultat pour l'instant parce que c'est un travail de longue haleine, le renseignement. S'imaginer que ces gars-là allaient pouvoir, en un claquement de doigts, réussir une affaire, c'était du rêve. Alors après, quand il y a eu cette affaire, il y a eu un emballement dans la presse. Ah, les gendarmes ont trouvé, le GIGN a trouvé un truc formidable, et tout ça, c'est parti. Et ensuite, il y a eu la part de zèle du capitaine Baril, qui n'a pas dû trouver grand-chose dans l'appartement des Irlandais, qui, si l'affaire avait été au bout, sans plan procédural, se serait retrouvé en correctionnel avec 3 mois de sursis et une petite... Voilà, un truc comme ça. Mais là, il a dit, il n'y a rien, je mets quelque chose. Faisons une affaire. Et ça, c'est de l'irresponsabilité totale.
Jean-Luc, on arrive au terme de cette émission, et encore une fois, je recommande votre livre parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires à raconter. Je vous lis, ça se lit comme un roman policier, encore une fois, mais c'est un roman vrai. Vous êtes heureux, vous êtes fier de ce que vous avez vécu là-bas. C'est quelque chose qui a été une expérience très passionnante pour vous, j'imagine. Mais vous en retirez, juste en quelques mots, vous en retirez quoi de cette vie à la DST? Parce que 15 ans, c'est beaucoup. Je ne parle pas du privé.
Vous pouvez dire que je suis fier d'avoir appartenu à ce service, à la DST. J'y ai vécu des années merveilleuses. Le boulot de contre-espion dans la lutte antiterroriste, c'est quelque chose de passionnant. C'est très exaltant. Ça vous apprend la patience, l'opiniâtreté. Ça vous fait découvrir, on est au centre des choses. C'est Camus qui disait, le policier, il est au centre des choses. Et il avait tout à fait raison. On faisait partie de l'histoire. Quand on travaillait contre le KGB, bien que j'ai beaucoup de respect pour les gens du KGB, qui étaient un grand service, comme le sont ceux du SVR maintenant, j'en doute absolument pas. Mais non, c'était une période extraordinaire.
En fait, quelque part, vous faites l'histoire. Voilà,
voilà, oui.
C'est ça.
Oui.
Merci. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Jean-Luc et merci à nos auditeurs de nous écouter toujours aussi nombreux. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio.
C'est 3 bouts de tôle, 2 planches de bois, un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on la terre, c'est la conspiration.
Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Benjamin Glaise.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, c'est le Petit Matin, on est ensemble, vous le savez, jusqu'à 6h30 avec toute l'équipe du Petit Matin de Sud Radio. À la réalisation, c'est Maxime Sénat, notre DJ également du jour. Présent par ailleurs, Rémi André, qu'on va retrouver dans un instant pour la météo du jour. C'est mitigé avec des températures qui vont remonter progressivement sur le reste de la semaine. Laurie Leclerc sera là pour le journal de 5h dans un instant, sans oublier Clément Arion. La revue de presse, ce sera aux alentours de 5h30, juste après le flash, et puis entre 5h et 6h, vous le savez, le meilleur de vos émissions, le meilleur de Parlons Vrai chez Bourdin, qui recevait hier la tête de liste Renaissance pour les européennes, Valérie Ayer, également le meilleur de vos vraies voix, et puis le meilleur de Sud Radio Média, donc à suivre sur Sud Radio. Excellent réveil à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, la flamme olympique qui débarque à Marseille demain, et puis également au programme, la Chine avec la visite officielle qui se poursuit de Xi Jinping en France, et puis on rendra hommage bien sûr tout au long de cette matinée à Bernard Pivot qui nous a quittés hier. Excellent réveil sur Sud Radio, il est 4h57.
L'horoscope Sud Radio.
Et on commence la journée avec votre horoscope. Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 mai. Bélier, fini les querelles en tout genre et les réactions démesurées. Vous êtes prêt à temporiser pour donner un nouvel élan à vos relations. Taureau, vous avez besoin d'en savoir plus avant de prendre une décision qui engage votre avenir. Prenez du temps. Gémeaux, vous allez avoir beaucoup de mal à garder votre sérieux. Vous risquez de parler trop vite aujourd'hui. Cancer, l'ambiance est au beau fixe. Votre façon d'être sera votre atout majeur, vous êtes davantage réceptif à votre entourage. Lion, vous avez besoin d'améliorer votre foyer. C'est une excellente journée pour rendre votre maison plus belle et plus confortable. Vierge, la chance est avec vous aujourd'hui. Vos nouvelles initiatives sont hautement favorisées. Foncez sans plus attendre. Balance, vous ferez un choix définitif qui portera ses fruits le mois prochain. Votre jugement est sain. Allez-y. Scorpion, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les contacts vont bon train. N'hésitez pas à négocier et parler de vous. Sagittaire, vous avez un flair infaillible aujourd'hui. Vous allez avoir raison d'avoir confiance en vous. Capricorne, c'est grâce à vos liens que vous préparez au mieux les changements dont vous avez envie. Tournez-vous vers les autres. Verseau, votre détermination à aller au bout de vos engagements sera le moteur de cette journée. Poisson, les événements de cette journée vous rendent positivement philosophe. Vous prendrez de bonnes décisions pour votre avenir.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
Et la météo, c'est avec vous, Rémi André. Bonjour Rémi. Bon, au programme aujourd'hui, une journée quand même encore assez instable. Hein.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, le temps va encore rester bien humide aujourd'hui avec de nombreuses averses. Alors évidemment, cela va commencer à s'arranger un petit peu par le nord-ouest où, depuis la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, nous allons retrouver des éclaircies dans l'après-midi. Mais partout ailleurs, eh bien, le temps va rester bien instable avec déjà des averses ce matin depuis le Poitou, le Limousin, jusque vers les Pyrénées, de l'Aquitaine tout d'abord. Ensuite, eh bien, dans l'après-midi, les averses vont se généraliser depuis les frontières belges, luxembourgeoises et allemandes jusque vers le Massif central. Une partie donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes et en descendant vers les Pyrénées. Dans tout ce secteur, en fait, les averses pourront prendre localement un caractère orageux vers la Méditerranée. Retour du Mistral et de la Tramontane, les éclaircies vont dominer. Quelques ondées pourraient arriver, notamment du côté du Rhône. Quant aux températures, eh bien, elles seront tout à fait limitées. Des températures qui, en général, seront comprises entre 17 et 21 degrés. Elles pourraient tout de même encore atteindre les 22 à 23 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup, Rémi André. Très bon réveil à tous avec Sud Radio, il est 5h.